Salut à tous, je suis toujours à Montier-en-Der au festival de la photo animalière et du vivant. Il y a évidemment plein d'assos qui sont présentes et il y a notamment celle qu'a fondée Sylvain Augeron. Salut Sylvain.
Bonjour. Bonjour Marc.
Qui est le fondateur de Canopée avec un E. Canopée, la canopée, c'est le feuillage des arbres pour faire simple. Et derrière, c'est drôle, il y a Francis Allais qu'on ira voir tout à l'heure. Et bref, avec Sylvain, on parle de l'état de santé de la forêt française. Et dans cet épisode, j'aimerais que peut-être on pourrait commencer par ce milliard d'arbres que Macron a dit vouloir planter. J'aimerais que tu nous expliques dans cet épisode comment on exploite la forêt française. Est-ce que c'est toujours bien fait? Alors évidemment, c'est une question, t'imagines bien, un peu biaisée dans la mesure où on est en pleine période où il va falloir s'adapter. Les hêtres en pleine vont souffrir de plus en plus à cause du réchauffement. Ils vont grimper en montagne, nanani. Voilà, c'est une question à tiroir. On va peut-être commencer avec le milliard d'arbres de Macron.
Ben, c'est une bonne question, le milliard d'arbres, parce que souvent, quand on nous aborde, des gens qui découvrent la forêt nous demandent toujours « mais qu'est-ce qu'il faut planter ?» ou alors ont entendu des forestiers dire « c'est pas grave, il n'y a pas de problème, madame, puisque quand je coupe un arbre, j'en plante. » Bon, sachez une chose, c'est quand vous entendez ça, on vous pipote. Un bon forestier ne plante jamais d'arbres. J'exagère. Derrière, tu vois, par exemple, on a mis une photo qu'interpelle avec un beau chêne. Et cet arbre, en fait, il est venu naturellement. Et le travail du forestier, moi, ce qui me plaît, et je suis ingénieur forestier, tu vois, c'est ça que j'ai découvert. L'art du sylviculteur, c'est vraiment de comprendre l'écosystème et de s'en inspirer. Dans la nature, en fait, un grand arbre arrive à maturité. Et quand, à un moment, il va être tellement vieux, tellement lourd, il va s'effondrer. Et en s'effondrant, il va ouvrir un puits de lumière. Et dans le sous-bois, les jeunes arbres vont prendre le relais, naturellement. Et du coup, à aucun moment, tu as besoin de planter. Donc, quand tu plantes, souvent, ce que j'aime bien dire, c'est que tu t'es planté. C'est quelque chose qui a loupé quelque part.
Tu es fort. Je te reconnais bien, là.
Alors, il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises raisons. Dans les bonnes raisons, des fois, tu récupères une forêt qui est une plantation d'épicéa. On en parlait dans le dernier épisode. Qui est là, une plantation, bon, il y a très peu de diversité biologique, à un moment tout s'effondre, tu peux te dire que tu vas replanter pour accélérer le processus naturel. Il peut y avoir aussi des forêts dans lesquelles, avec le changement climatique, on a une forêt pure de hêtres, on voit que les hêtres sont en train de flancher, tu peux venir non pas tout raser et replanter, mais venir enrichir, faire des petites plantations d'enrichissement dans lesquelles tu vas venir mettre du tilleul, venir mettre du chêne sessile, qui sont un peu moins naturellement présents. Et puis il y a les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est celle de dire « cette forêt-là, elle ne me plaît pas, je vais la qualifier de pauvre, je vais la qualifier de vulnérable, et je vais la raser et replanter autre chose. » Cette autre chose étant, mystérieusement, bien souvent, une monoculture de résineux. Voilà. Et ça...
Qui est plus facilement exploitable en termes d'industrie du bois ?
C'est vraiment lié, effectivement, à l'industrie du bois et au fait qu'on n'a jamais pensé une stratégie qui lie la forêt à nos entreprises de transformation du bois. Et ça, pour moi, c'est important aussi à expliquer, c'est que depuis les années 60, il y a 15 000 scieries, il n'y en a plus que 1500. Et ces scieries qui ont disparu, c'est beaucoup de petites et moyennes scieries de résineux, de chênes et autres, qui maillaient le territoire. Et aujourd'hui, celles qui subsistent, c'est des grosses scieries de résineux. Et donc, à partir du moment où ces scieries disparaissent, tu n'as plus d'incitation économique à gérer ta forêt. Et donc, tu vas dire qu'elle est pauvre, parce que les arbres, tu ne peux pas les vendre à des scieurs. Ou parce qu'effectivement, le frêne, les tilleuls qu'on transformait avant, partent à l'exportation. Donc voilà, c'est ou pour le bois énergie, on pourrait en parler. Et donc, tu vas la qualifier de pauvre. En fait, c'est juste une question d'outils à créer, de scierie à recréer. Et donc, souvent, c'est abusif. Alors que le résineux, voilà, c'est facile. Tu as des grosses scieries. On a mis toutes les normes de construction pour favoriser le résineux. Et donc, mécaniquement, ça amène à dire planter les résineux. Voilà.
D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais concrètement... Je me souviens dans les émissions avec toi que j'ai écouté, tu parlais de la façon dont on exploite la forêt. Tout n'est pas bien fait, apparemment. Il y a les engins qui tassent le sol de la forêt. C'est un des problèmes. Quels sont les problèmes aujourd'hui en ce qui concerne justement la gestion du bois, la gestion de nos forêts? Est-ce que l'ONF fait bien son boulot? Parle-moi un peu de comment, qu'est-ce qu'on fait avec nos forêts? Est-ce qu'on le fait bien?
Moi, je dirais que la majorité des forestiers font bien. C'est-à-dire qu'on partage en tout cas la même vision du boulot, qui est de dire la forêt c'est avant tout un écosystème. Donc je vais essayer de comprendre comment il fonctionne et je vais agir en fonction de ça. Donc évidemment, tu me parles des sols. Les sols, c'est la grande oubliée de la forêt. On ne regarde pas les sols comme on ne regarde pas la canopée d'ailleurs. et donc on va faire venir des engins lourds qui vont tasser les sols. Mais quand tu tasses les sols, ce qu'on commence à observer, c'est que derrière tu vas affaiblir la capacité de rétention de l'eau. Tu vas, les racines ne vont pas pouvoir aller prospecter dans ces endroits-là. Et donc, on va avoir des forêts plus fragiles. Et donc, pour protéger les sols, en fait, il y a des techniques forestières qui existent. Plutôt que de venir tout saccager en faisant passer les engins partout, tu vas ouvrir ce qu'on appelle des cloisonnements, quelques chemins sur lesquels tu vas faire passer les engins lourds. Et entre deux cloisonnements, tu vas tirer au câble les bois de façon à ne pas faire passer d'engins lourds. Donc, on peut combiner comme ça des techniques d'exploitation forestière qui permettent de récolter du bois sans tout détruire. D'autres techniques, ça va être de se dire, même dans une forêt gérée, je vais laisser des îlots de sénescence, d'arbres que je ne vais pas exploiter, tu vois. Et ça, c'est intéressant parce que ça va t'amener de la biodiversité. Je te donne un exemple. Par exemple, avec les changements climatiques, aujourd'hui, de plus en plus d'arbres sont fragilisés par des parasites. Alors, je te parlais du scolyte dans l'épisode précédent, mais le scolyte...
C'est une sorte de coléoptère, hein.
Exactement.
Dont la larve est xylophage, elle mange du bois. C'est juste pour expliquer. Voilà. Et ça fait d'ailleurs des dessins très jolis, c'est bête ce que je dis, mais
le scolyte, il fait partie de l'écosystème. En fait, le scolyte, il va venir accélérer ce cycle de sénescence des arbres. Bon, et à un moment, le scolyte, il a juste besoin de prédateurs, d'autres coléoptères, etc. Donc quand tu as des arbres qui abritent ces autres coléoptères, tu vas avoir une régulation naturelle. La tordeuse du chêne, qui est une chenille qui va venir grignoter les feuilles du chêne, elle, c'est pareil, elle va être mangée. Elle peut être mangée directement par des coléoptères. Mais pour ça, il faut que tu aies des arbres qui permettent de les accueillir.
De la diversité, en somme.
Exactement, voilà. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, de mélanger, d'avoir ces îlots de sénescence, d'avoir des forêts. Ce que montre vraiment la science, c'est plus tu es diversifié, plus tu es résilient. Par exemple, avec le changement climatique, aujourd'hui, le rouleau compresseur, c'est le pin maritime, qui est un arbre qui est naturellement, on va dire, assez résistant à la sécheresse, même si c'est pas un arbre miraculeux, et qu'on a tendance à planter un peu partout, qu'on a beaucoup planté dans le massif des Landes, et aujourd'hui ce qui nous inquiète c'est qu'on plante en Dordogne, on plante en Charente, en Maine-et-Loire, sur toute la façade ouest, et on rase des forêts naturelles pour ça. Mais le problème que pose le pin maritime, c'est aussi qu'il est plus sensible au risque incendie, surtout entre 10 et 30 ans, c'est comme une boîte d'allumettes que tu as disposée, et ça c'est très dangereux. Il est aussi sensible à un petit ver qu'on appelle le nématode du pin, qui aujourd'hui fait des gros ravages au Portugal, qui est cantonné par des programmes mis en place par l'Europe pour essayer de cantonner l'invasion, mais ça coûte très cher. Et à un moment, le nématode, il va venir en France. Et ça va être le carnage dans ces monocultures. Et donc, on revient toujours à la même question, c'est-à-dire que sur le seul critère sécheresse, le pin maritime, génial. Mais si je prends le risque tempête, le risque parasite, le risque incendie, je me rends compte que faire une forêt pure de pin maritime, c'est pas une bonne idée. Donc en fait, la diversification, c'est-à-dire l'intuition naturelle qu'il faut une forêt diversifiée, elle rejoint ce que dit la science.
Très bien Sylvain. Moi j'ai encore envie, si t'en as encore sous le capot, sous le pied, sous la semelle, sous la pédale, on va refaire un troisième épisode parce que effectivement tu en as beaucoup, tu as beaucoup de choses à dire, c'est bien normal sur la forêt. Donc je te retrouve avec plaisir pour refaire un épisode où on va achever de comprendre ce qui se passe avec nos forêts en France. D'ici là, prends soin de toi Sylvain, salut.
Merci Marc, à très vite.
C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur HelloAsso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.